Bonjour, compte à rebours, c'est Marco à l'appareil. Des contes, des histoires, des légendes, des blagues, des petites, des longues, des brèves, des rapides, des absurdes, des étonnantes, toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, des histoires qui nous parlent de la force, de la terre, de la montagne, du soleil, de toutes ces choses-là. Un conte taoïste. Et puisque nous parlons de contes taoïstes, eh bien, pourquoi pas introduire ce conte par un auteur. Un auteur qui est né en 570 avant Jésus-Christ. Hein, on n'en entend pas souvent des gens qui ont cette longévité. Bon, il est mort, hein, bien sûr. Mais enfin, qui ont cette longévité, en tout cas, puisque ses écrits continuent d'être lus partout dans le monde. Et ce gars-là, qui est né en 570 avant Jésus-Christ, il s'appelle Lao Tzu et il a écrit ce fameux livre qui s'appelle le Tao Te Ching, qui est divisé en espèces de petites stances. Il y en a un certain nombre, hein. Je pense qu'il doit y en avoir une bonne cinquantaine. Et 81, tiens, voilà, 81. Et la première de ces stances dit, vous devez sans doute l'avoir déjà entendu, une voie qui peut être tracée n'est pas la voie éternelle, le Tao. Un nom qui peut être prononcé n'est pas le nom éternel. Sans nom, il est à l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère des 10 000 êtres. Ainsi, un non-désir éternel représente son essence, et par un désir éternel, il manifeste une limite. Ces deux états coexistent, inséparables, et diffèrent seulement de nom. Pensez ensemble, mystère, le mystère des mystères. C'est la porte de toutes les essences. Voilà donc ce que dit le Tao Te Ching, des choses qui paraissent mystérieuses, bien sûr. Mais il faut savoir les lire. Par exemple, la 11e de ces petites stances, qui est très connue aussi, 30 rayons convergent réunis au moyeu forment une roue. Mais c'est de son vide central que c'est grâce à son vide central qu'on peut utiliser le char. Les vases sont faits d'argile, mais c'est grâce à leur vide que l'on peut s'en servir. Une maison est percée de portes et de fenêtres, et c'est leur vide qui la rend habitable. Ainsi, l'être produit l'utile, mais c'est le non-être qui le rend efficace. Voilà des choses dont il fait bon se rappeler de temps en temps. Le Tao Te Ching et les taoïstes. Le voyage du tailleur de pierre. Un tailleur de pierre fort habile vivait au pied d'une montagne. Il avait le don pour choisir les meilleurs blocs de la carrière, les extraire en un tour de main, les tailler avec adresse. La maîtrise de son art lui valut une belle réputation qui fut colportée jusqu'au chef-lieu du canton. Un riche commerçant le fit venir pour lui commander des marches de grès rose afin de remplacer son vieil escalier de bois vermoulu. Pendant son travail, le tailleur eut tout le loisir d'apprécier la splendide demeure du bourgeois. Ses meubles de bois précieux, ses mets plantureux, ses nombreux serviteurs, sa femme et sa concubine pomponnées dans leurs robes de soie. Quand l'artisan rentra chez lui, le contraste fut si saisissant qu'il en eut du vague à l'âme. Malgré son talent, il s'éreintait pour parvenir tout juste à nourrir sa nombreuse descendance. Il était condamné à vivre dans une masure étroite et enfumée, à manger du gruau de riz en compagnie de sa femme mal fagotée au milieu de leur bruyante marmaille. Jamais, jamais, il n'aurait la belle vie du bourgeois. Thank you. Le lendemain, le tailleur de pierre partit pour la montagne. N'ayant plus vraiment le cœur à l'ouvrage, il quitta le sentier qui conduisait à la carrière et grimpa celui qui menait à la cabane de bambou d'un vieux taoïste, un anachorète qui vivait là, que l'on disait immortel et magicien. Il lui servit une tisane douce amère et lui demanda quel tourment l'avait conduit jusqu'à sa modeste retraite. Tailleur de pierre lui conta sa visite chez le bourgeois et à la fin se lamenta sur son sort. Qui aperçut l'illusion de ce monde mouvant, répondit le sage, qui s'est ouvert au Tao, ne voudrait pas échanger sa hutte contre un palais. Mais comment renoncer à ce qu'on ne connaît pas? Et le vieillard esquissa de la main une sorte d'idéogramme, tout en murmurant quelques mots impénétrables. Le tailleur de pierre se retrouva aussitôt à la place du riche commerçant, dans sa somptueuse maison, ornée d'un nouvel escalier de grès rose. Il ne se posa pas plus de questions que ça et se hâta de croquer à pleines dents cette vie opulente et douillette. Quelques jours après, alors qu'il flânait dans la rue principale de la bourgade, le tailleur de pierre vit la foule s'écarter pour laisser passer un cortège. C'était le préfet, en tournée d'inspection, confortablement installé dans un palanquin doré, entouré de ses laquais et de ses gardes rutilants. L'homme des montagnes, tout ébahi, resta au milieu du passage à contempler le spectacle, obligeant ainsi la procession à s'arrêter. Les gardes se ruèrent sur lui et présentèrent au mandarin le fâcheux qui avait eu l'outrecuidance d'arrêter son palanquin. Le dignitaire, furibond, le condamna à recevoir 100 coups de bâton et à payer 100 taels d'argent. On n'outrage pas impunément le représentant du Fils du Ciel. Notre tailleur de pierre regretta aussitôt de ne pas avoir souhaité plutôt être préfet. Et il se retrouva tout de suite transporté dans le palanquin doré. Il était préfet. Quand il découvrit le palais du mandarin, le tailleur de pierre n'en crut pas ses yeux. Bois laqué, statuettes de jade et d'ivoire, mets raffinés, concubines envoûtantes dans leurs délicates robes de satin, tout ce luxe lui faisait tourner la tête. Au comble du bonheur, il pensa qu'il était parvenu au royaume des immortels. Mais notre dignitaire n'avait pas l'expérience de son prédécesseur et il reçut un jour une convocation à la cité interdite où il lui fut signifié que son Altesse impériale, ayant eu de nombreuses plaintes à son sujet, le démettait de ses fonctions et l'envoyait combattre les barbares du Nord. Notre tailleur de pierre regretta aussitôt de ne pas être empereur. Là au moins, il n'aurait de compte à rendre à personne, il serait le maître du monde. Il jouerait du plus grandiose palais que les yeux des yeux mortels puissent contempler. Et aussitôt, par le pouvoir du taoïste de la montagne, le tailleur de pierre se retrouva assis sur le trône impérial. Le nouvel empereur ne comprenait pas grand-chose à l'argot diplomatique ni à la langue de bois politique. Il préféra laisser ses ministres gouverner à sa place et s'occuper, lui, de jardiner dans le parc délicieusement paysagé de la cité interdite et aussi se prélasser sur les divans accueillants du gynécée. Et le tailleur de pierre, dans son innocence, avait mis en pratique, sans le savoir, le précepte de Lao Tzu, par la vertu du non-agir, l'ordre naturel se maintient. Mais on ne s'improvise pas impunément fils du ciel, et sans doute négligea-t-il quelque rite ancestral qui maintenait l'harmonie entre le ciel et la terre. Voilà qu'une terrible sécheresse s'abattit sur l'empire du milieu. Les cours d'eau et les étangs furent à sec, les sources et les puits se tarirent. Même à l'ombre des murs du jardin de la cité interdite, la chaleur caniculaire faisait des ravages. Sous un soleil de plomb, les pivoines, les roses, les orchidées, les bambous et les bosquets nains moururent de soif entre les mains attendries de l'empereur. le souverain, le plus puissant du monde, comprit que l'astre solaire lui était supérieur. Et le tailleur de pierre regretta ardemment de ne pas trôner à sa place dans le ciel. De sa lointaine montagne, le vieux taoïste capta aussitôt sa pensée, sûrement, car soudain, le tailleur de pierre insatiable se pavanait sur la voûte céleste. De là, il pouvait imposer son pouvoir à toute la surface de la terre, caresser et faire chanter la diversité des paysages, des choses et des êtres, et sans cesse admirer son œuvre renouvelée. Jusqu'au jour où les nuages revinrent. Tout d'abord, il fut borgne, puis complètement aveugle. Il ne pouvait plus jouir du spectacle qu'il créait. Il enragea. Le nuage, cette vapeur inconsistante, était donc plus puissant que lui, fournaise ardente. Il regretta de ne pas être à sa place. Le sage de la montagne exécuta son petit tour de passe-passe et notre tailleur de pierre se retrouva nuage. Il fit quelque temps la nique au soleil, lui tirant nonchalamment son écran de fumée. Mais il fut bientôt emporté par un grand courant d'air taciturne qui le ballotta dans les six directions, les filocha, le déchira. Il était sans force entre les mains du vent. Il avait trouvé son maître, sans doute le plus puissant, le plus insaisissable de l'univers. Il regretta de ne pas y avoir pensé plus tôt. Et par le pouvoir du vieux sage, le tailleur de pierre fut le souffle de vent. Il prit de la vitesse, de la vigueur, se mua en un redoutable ouragan. Il jouait à renverser les arbres, à souffler les toitures, à faire écrouler les murs. Il fut arrêté par une haute montagne. Il s'acharna, tenta de l'ébranler, de la déraciner, de l'escalader. Rien n'y fit. Il s'essouffla, il avait donc trouvé plus fort que lui. Il souhaita être montagne. Et par la magie du Tao, le tailleur de pierre fut un pic altier couronné de nuages. Il était inamovible et insensible à la neige et aux rayons du soleil. Il pensait avoir enfin atteint la félicité suprême d'un immortel. Il était si bien, si puissant, si tranquille. Il y avait quand même une petite gêne, c'est bizarre. L'un de ses orteils, en quelque sorte, si tant est qu'une montagne puisse avoir des orteils, l'un de ses orteils le démangeait. Il pouvait pas se gratter. Comme c'était agaçant, insupportable même. Il essaya de voir ce qui le grattait ainsi, ce qui le démangeait. Et enfin, à travers une trouée de brume, il vit un humain minuscule, un misérable mortel qui tenait à la main une masse. C'était un petit tailleur de pierre, moins que rien, qui lui sapait le moral. Incroyable. Il n'y avait donc rien de plus puissant au monde que ce pauvre type. Et après le voyage magique que lui fit faire le sage, le tailleur de pierre se retrouva dans sa carrière au pied de la montagne. Il admira le paysage comme si ses jambes ne l'avaient jamais porté jusque-là. Puis il se mit à l'ouvrage, chantant à tue-tête. Le soir, il rentra chez lui, embrassa avec plaisir sa femme et ses enfants qu'il trouva plus beaux et plus vrais que les courtisans. Et plus jamais il ne se plaignit de son sort. « Ne cherche pas le bonheur dans le verger de ton voisin, » dit l'adage. « Creuse plutôt à l'intérieur de ton jardin. »
Baby, don't worry about the thing. For every little thing, it's gonna be alright. Baby, don't you worry, don't worry about the thing. Well, every little thing, it's
up this morning, smile with the rising sun. Three little birds on my doorstep, singing sweet song. The melody pure and true. This morning, smile with the rising sun. Three little birds on my doorstep, singing sweet song. The melody's pure and true, pure and true. This is a message to you. Papa na pa na, pat ni papa.
Nasreddine entre un jour dans une pharmacie et demande un médicament pour arrêter le hoquet. Le pharmacien s'approche alors du moulin et brusquement lui donne une puissante gifle en poussant un cri terrifiant. Nasreddine s'effondre deux pas en arrière, s'écroule dans la vitrine qui se brise tout net. « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» demande Nasreddine en se relevant péniblement. « Pourquoi m'avez-vous frappé ?» Il est bien connu, dit le pharmacien, que le meilleur moyen de faire cesser un hoquet, c'est de provoquer une subite frayeur chez le patient. Ça a marché. Peut-être, reprend Nasreddine après quelques secondes de réflexion. Mais l'inconvénient, c'est que c'est mon petit garçon qui a le hoquet et c'est pour lui que je suis venu chercher un médicament. Un jour, un grand théologien monte en chaire à la mosquée de Nasreddine. Et dans son prêche, il expose le bonheur qu'il y a à aller au paradis et les tourments sans fin qui règnent dans la géhenne, dans les enfers. À la fin, il se tourne vers la foule des fidèles et demande que ceux qui ont envie d'aller au paradis lèvent la main. Toutes les mains se lèvent, sauf celle de Nasreddine, qui se trouve parmi l'assistance au milieu de la mosquée. On le voit bien, le théologien ne manque pas de le remarquer, il ne lève pas la main. Alors il se tourne de nouveau vers les fidèles et dit « Que ceux maintenant qui veulent aller dans la géhenne, dans les enfers, lèvent la main !» Aucune main ne se lève. Alors le théologien s'adresse à Nasreddine. « Mais alors toi, où est-ce que tu veux aller ?»«
Moi ? Nulle part, je me trouve bien dans notre ville. »
Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. des belles histoires taoïstes, mais il y aura d'autres histoires de toutes sortes la semaine prochaine. C'était Marco, et je vous dis à bientôt. Thank you.